Si vous le connaissez, Mickey Cohen, c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est un célèbre gangster américain qui est rattaché à la Yiddish Connection, qui est la mafia juive, dans les années 30-40 et jusqu'aux années 60. Mickey Cohen, il était très lié avec la mafia italienne. Il a même travaillé pour Al Capone. Mais Mickey Cohen, il a eu beaucoup, beaucoup d'influence sur les crimes organisés à L.A., à Los Angeles. D'ailleurs, c'était son territoire. Il a fait des choses quand même pour pouvoir prendre ce territoire qui est Los Angeles. D'ailleurs, les mafiosos sont très, très ingénieux quand il s'agit de trouver des trucs pour faire de l'intimidation, comme on appelle. Mais dans les années 30 et jusqu'aux années 60, Mickey Cohen était l'homme clé de Los Angeles. Il s'est rattaché avec tous les notaires de Los Angeles, les grands. D'ailleurs, si vous voulez, il y a le film Gangster Squad avec Sean Penn qui est sorti en 2013, qui raconte son histoire. Mais au même époque, il y avait aussi un autre grand qui était Billy Graham, qui du côté évangélique, qui prêchait et il était connu. Et autant que Billy Graham a voulu la conversion de cet homme qui est Mickey Cohen, tellement. Et Mickey Cohen voulait aussi, lui, s'associer à un homme, voilà l'homme qui est le plus, bonne réputation en Amérique. Et aussi, il voulait s'associer à cette image. Et on nous raconte qu'en 1957, Billy Graham tient un grand rassemblement au Madison Square Garden à New York. Et il invite comme invité Mickey Cohen. Il venait juste de sortir de prison. Et selon ce que les gens pensent et disent, Mickey Cohen était pressé de tous côtés, de toutes parts, à se convertir. Ce que pensent plusieurs, il finit par faire. Mais quelques temps passent et les gens ne voient pas de signe de repentance de Mickey de Cohen. Alors là, les gens qui sont influents dans l'organisation de Billy Graham vont le voir et disent « Écoute, Mickey, tu ne peux pas continuer tes actions, en fait, tes affaires illicites. Tu ne peux pas. Il faudrait que tu changes tes activités. » À quoi Mickey répond, il dit « Ben, écoute, il y a des athlètes chrétiens, right? Il y a des artistes chrétiens, right? » Il y a des professionnels chrétiens, il y a des hommes d'affaires chrétiens. Il ne peut pas avoir des gangsters chrétiens. Alors, s'il faut que j'abandonne mes activités, mais comptez pas sur moi. Il n'était pas question pour Mickey de changer quoi que ce soit. Aucun désir de son côté de changer ses activités, de se détourner de ses péchés pour honorer Dieu. En fait, Mickey n'avait jamais manifesté aucun signe de repentance. Aucun signe. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, certains lorsqu'ils présentent l'Évangile ou dans la proclamation de l'Évangile, veulent rendre ce message de l'Évangile acceptable, plus populaire. Et ils vont le diluer en affirmant que la repentance n'est pas nécessaire au salut, sous prétexte un petit peu de contextualiser le message, de rendre le message un peu plus abordable. On invite les gens à accepter Christ sans même leur montrer leur péché, sans même leur dire qu'ils aient à se repentir. Et pourtant, lorsqu'on regarde les évangiles, lorsqu'on regarde la Bible, le thème de la repentance est central dans le message de l'Évangile. C'est un terme qui est au cœur même du message de l'Évangile. Ça a été le message des prophètes dans l'Ancien Testament, ce fut le premier message annoncé par Jean-Baptiste dans Matthieu 3. Il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce fut le premier message par lequel Jésus lui-même a commencé son ministère. Dans Matthieu 4, 17, il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à l'Évangile. » C'est un message de repentance.
Ce fut le premier message aussi que lorsque Jésus envoya ses disciples, c'est avec ce même message qu'il les envoya. Ils prêchèrent la repentance dans Marc 6, 12. Ce fut la première prédication de Pierre dans Acte 2. Pierre prêche la repentance. Il dit « Repentez-vous ». Ce fut le cas aussi dans son deuxième message dans Acte 3. Paul a prêché la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ dans Acte 20. Et vous savez-vous, dans le dernier message que Jésus a laissé aux disciples dans Luc 24, il leur dit ceci, « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui que d'un coup la repentance est moins importante. Ce matin, j'aimerais que, à travers le chapitre 44 de notre étude de la Genèse, voir avec vous quelques signes, peut-être trois signes d'une vraie repentance. Voir ensemble c'est quoi lorsqu'on parle d'une repentance sincère. Nous allons voir comment que Dieu, comment Joseph fut utilisé par Dieu pour amener ses frères à la repentance et de l'attirer, nous, une leçon ou tirer des signes pour nous d'une vraie repentance. Alors, le contexte dans le chapitre 44, on a vu la semaine passée avec Pasteur Richard, comment que la famine a obligé Jacob à renvoyer pour une deuxième fois, ses fils en Égypte chercher du blé, parce que le blé, la famine est là. Et les vivres qu'ils ont ramenés lors du premier voyage, c'est fini. Alors on fait quoi? Alors ils décident de renvoyer ses fils. Mais on a vu aussi comment que Jacob n'était pas chaud à l'idée d'envoyer Benjamin, parce que la condition pour laquelle qu'il devrait retourner, Joseph avait dit, mais vous revenez pas sans Benjamin, votre petit frère. Il a gardé Siméon en prison. Et il avait peur qu'il arrive quelque chose et être privé comme il a été privé de Joseph. Et finalement, il décide, il les laisse partir. Et ce qu'on voit, c'est que ils ont été bien reçus dans la maison de Joseph, au point même Joseph partage un dîner avec eux à la fin du chapitre 43. Et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Genèse 44. On va lire le chapitre au complet. Genèse 44. Joseph donna ce ordre à l'intendant de sa maison. Ça, c'est, on est juste après le dîner. Remplis de vivres les besaces, les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter. Et mets l'argent à côté de chacun à l'ouverture de sa besace. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture de la besace du petit, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il le fit jour, on laissa partir les gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens et rattrape-les. Tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas dans cette coupe que boit mon Seigneur et avec elle qu'il devine l'avenir? Vous avez mal agi, mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils répondirent, « Pourquoi mon Seigneur part-il de la sorte? Tes serviteurs ne risquent pas de commettre une telle action, alors que nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'ouverture de nos besaces. Comment aurions-nous volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur ?» Verset 9, « Que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera quelque chose meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » L'intendant répondit, « Viens, je vous prends au mot. Celui sur qui se trouvera quelque chose sera mon esclave, et vous, vous serez quitte. » Chacun se hâta alors de descendre sa besace et à terre et de l'ouvrir. L'intendant les fouilla, commençant par le plus grand et finissant par le plus petit. Et la coupe fut trouvée dans la besace de Benjamin. Verset 13, ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir ?» Judas répondit, « Que dire à mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Dieu a trouvé tes serviteurs en faute. Nous voici esclaves de mon Seigneur, aussi bien que celui sur qui la coupe a été trouvée. » Alors Joseph dit, « Je ne risque pas d'agir de la sorte. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, retournez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un petit frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort. Il est donc le seul qui soit resté de sa mère et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre avec moi et que je le voie de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « Le garçon ne peut quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez plus mon visage. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père lui a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre. Mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons. Et nous ne pouvons pas voir le visage de cet homme, à moins que notre petit frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme avait enfanté deux fils. L'un est parti chez moi. Je pense qu'il est sans doute été mis en pièces, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un accident, c'est dans le malheur que vous me ferez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant, si je reviens auprès de ton serviteur, mon père, et si le garçon n'est pas avec nous, comme son âme est attachée à la sienne, il mourra. En voyant que le garçon n'est pas là, tes serviteurs auront fait descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur s'est porté garant pour le garçon en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. » Verset 33, « Maintenant, je t'en prie, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter auprès de mon père si le garçon n'est point avec moi? Ah, que mon regard ne s'arrête pas sur le malheur qui atteindra mon père. » Amen. C'est un long passage, mais wow, rempli d'émotions, rempli de... signes pour nous ce matin qui nous parlent d'une vraie repentance de la part des frères de Joseph. Et dans ce texte que nous venons de lire, on va considérer ensemble trois signes. Le premier, c'est la conscience des frères qui est mise à l'épreuve. On le voit dans les 13 premiers versets. Il y a une réelle prise de conscience du péché de la part des frères de Joseph. Ça, c'est le premier signe. Il y a une réelle prise de conscience. Et cette prise de conscience pousse à une réelle confession du péché dans les versets 14 et 15. On voit que les frères ont été convaincus de leur péché. Et à partir de ce moment où ils s'arrêtent, où ils se posent des questions, on voit que ça les pousse à un réel changement. On a vu que les frères ont changé. Le cœur des frères de Joseph ont vraiment changé. Et pour qu'il y ait une vraie repentance, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience, une réelle confession et un réel changement de cœur. Père Céleste, on veut te rendre grâce et être reconnaissant, Seigneur, pour ta parole ce matin. Et merci, Seigneur, de ce qu'on peut la lire, Il permet qu'on puisse la comprendre et l'appliquer aussi dans nos vies, Seigneur, afin d'être agréable à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, et bénis ce temps ensemble, Seigneur, on te prie, que ton Saint-Esprit puisse nous assister. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le dîner est terminé. Joseph commande à son intendant de donner à ses frères autant de provisions qu'ils peuvent avoir et qu'ils pourraient emporter. Et ça, c'est dans les deux premiers versets, on voit qu'il dit « Remplis les sacs de ces hommes avec autant de vivres qu'ils peuvent emporter. » En même temps, il dit « Remets l'argent qu'ils ont apporté pour payer le blé, etc. » Il dit « Remets-les dans leurs sacs. » Comme ils avaient fait pour lors du premier voyage. Et en plus, la seule différence, il dit, rajoute la coupe d'argent qui m'appartient et cache-le dans le sac du plus petit. Alors, on voit que Joseph, il fait une mise en scène, il place les morceaux, parce que c'est pas la première fois qu'il teste les frères. Mais ça, c'est vraiment le test final. Il dit, mets la coupe dans le sac du petit. Et la coupe, ici, est décrite comme quoi c'est une coupe que Joseph utilise pour lire les présages. Alors, certains pensent que Joseph l'utilisait vraiment comme méthode de divination, en rappelant que, bon, écoute, en Égypte, c'était coutume à l'époque. D'autres, plutôt, suggèrent que c'était tout simplement un élément de plus dans le maquillage de Joseph, dans le déguisement que Joseph, dans la mise en scène que Joseph est en train de faire, simplement un déguisement, un élément de déguisement. Parce qu'il veut que les frères puissent savoir qu'il est vraiment un Égyptien. Moi, je suis plus d'avis qu'effectivement, c'est un élément de déguisement, c'est un élément, c'est une couverture en soi à la coupe. Parce que Joseph n'a pas besoin d'une coupe pour deviner. Dieu lui révèle qu'est-ce qu'il veut. Comme il l'a fait, il a révélé ses plans, comme il l'a fait pour Pharaon. Il n'a pas besoin d'une coupe. Alors, le serviteur, on voit que les rattrapa et il les accusa d'avoir volé la coupe qui servait pour la divination. Et là, on voit que les frères de Joseph, avec une assurance, avec une confiance ferme, ils rassurent le serviteur et disent « Hey, hey! » Pourquoi ferait-on pareille chose? Voyons! Après tout, écoute, on a rendu l'argent qu'on avait trouvé dans notre sac. On l'a rapporté. Pourquoi volerait-on une coupe? Au verset 8, ils sont en train d'offrir un argument aux serviteurs pour montrer leur innocence. Ils disent, ça fait du sens, non? On a rapporté l'argent. C'est pour vous démontrer qu'on est des gens honnêtes. Et là, vous nous accusez de voleurs. Et là, au verset 9, ils sont tellement sûrs qu'ils sont honnêtes. Il dit ceci, il dit, écoute, on va faire quelque chose. Que celui de tes serviteurs sur qui trouvera quelque chose meure. Wow! Ça, c'est être confiant. Ils sont tellement confiants qu'ils sont innocents, ils prononcent une sentence de mort sur celui que trouvera la coupe. Jacob avait fait la même chose. Lorsque Laban le poursuivait parce qu'il avait perdu ses théraphimes, il dit la même chose. Mais c'était pour montrer comment ils sont confiants de leur innocence. Alors, au verset 10, le serviteur, sachant qu'il va découvrir la coupe, il modifie un petit peu la sentence. Il dit, je vois votre bonne intention, mais non, c'est seulement sur celui qui, sur qui je vais trouver la coupe, c'est seulement celui-là qui va être mon esclave. Mais les autres, ben, vous pouvez partir. Vous êtes libres. Alors là, les frères se dépêchent, ils ouvrent leur sac. Là, le texte, on dit qu'il commence du plus grand, ainsi de suite. Wow! Ruben, Siméon, etc. Ah, se dépêche! Trouve rien! Arrive sous le dernier! Wow! La coupe a été trouvée dans le sac de Benjamin. Et là, leur monde s'est écoulé. Là, ils sont atterrés. Comment? Ils ne peuvent pas l'expliquer. Comment la coupe? Ils sont dans la confusion. Comment cette coupe a pu atterrir dans le sac de Benjamin? Et là, si vous lisez le verset 13, il faut comprendre la profondeur de leur étonnement. Et là, ils sont là. Et le texte nous dit au verset 13, ils déchirèrent leurs vêtements. Et à l'époque, lorsqu'on déchire nos vêtements, c'était pour exprimer une profonde émotion. Une émotion forte. Des fois, c'est la honte, la colère, dans le deuil. Vous vous rappelez lorsque Ruben, il est revenu à la citerne, il n'a pas vu Joseph. Le texte nous dit que Ruben a déchiré ses vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Et lorsque les frères ont appris à leur père que Joseph a été dévoré par un animal, Jacob a déchiré ses vêtements à l'annonce de la mort de Joseph. Et là, les frères, ils n'arrivent pas à croire que la coupe a été trouvée dans le sac de Benjamin. Alors là, c'est la détresse totale. Ils déchirent le vêtement. C'est un signe de grande consternation, de grande douleur. Parce qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il faut qu'ils retournent chez leur père. Donc Benjamin deviendra esclave. C'est-à-dire faire revivre à leur père la même chose qui s'est passée avec Joseph. La même chose. Et ici, c'est possible. Hein? C'est possible que les frères ont déchiré leurs vêtements parce que, bon, ils ont trouvé la coupe dans le sac de Benjamin. C'est possible. Et c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi plus que ça ici. Ils n'ont pas déchiré leurs vêtements uniquement parce que Benjamin a été trouvé coupable. Mais je pense qu'ils ont senti la main de Dieu qui les pressait. Parce que c'est pas normal que on arrive en Égypte, on nous prend pour des espions, on arrive à chaque pas qu'on fait, il y a quelque chose qui tourne mal. C'est pas possible. Et là, ils sentent la main de Dieu qui les pousse, qui les presse. Et là, ils sont profondément troublés. Et là, moi, j'imagine les frères, là, ils sont là, on fait quoi? On fait quoi? On peut pas retourner à Canaan sans Benjamin? Comment je vais expliquer ça à mon père? Et à la fin du chapitre, il y a une expression qui est dit « faire descendre avec douleur dans le séjour des morts ses cheveux blancs ». C'est Jacob qui s'exprime comme ça en disant que « si vous revenez pas avec Benjamin, ma mort est certaine ». Oui. Faire descendre avec douleur dans le séjour des morts mes cheveux blancs. Ça traduit bien cette idée. Et jusqu'à date, les frères ont été soumis à une série d'épreuves, à une batterie de tests. Mais tout ça dans le but afin qu'ils prennent, qu'il y ait une réelle prise de conscience de leur péché. Et péché qu'ils ont commis il y a plus de 20 ans. Au moment où ils avaient vendu Joseph pour être esclave. Et toute cette mise en scène de Joseph dans le chapitre 44, c'est pour contribuer à ça, afin que vraiment que les frères arrivent à prendre une réelle prise de conscience. C'était pour Joseph une manière de confronter les frères, c'était une manière pour les reprendre. Vous savez, lorsqu'on reprend quelqu'un, on veut lui montrer son péché. On veut lui montrer son péché, on veut l'appeler à se repentir. On veut le convaincre, on veut le mettre au pied du mur. Et c'est exactement ce que Joseph fait ici. Il est en train de mettre ses frères au pied du mur afin qu'ils réalisent le péché commis il y a de cela 20 ans. Le but de Joseph était de ramener à la pensée de ses frères à plus de 20 ans en arrière, au moment où, près de la citerne, où il suppliait ses frères. Mais ses frères l'ont abandonné. Ils étaient restés insensibles à sa détresse quand il leur demandait grâce. Puis aussi à la douleur de leur père, lorsque leur père lui a annoncé cruellement la mort de son fils. Et Joseph veut savoir maintenant, est-ce qu'ils étaient capables de comprendre la souffrance de Benjamin et aussi de leur père? On sait que leur conscience avait déjà été éveillée un petit peu, là. Dans Genèse 42, le verset 21, il nous dit que nous avons été coupables envers notre frère. Et c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Lorsqu'ils avaient été accusés d'être des espions. Et toujours dans Genèse 42, verset 28, leur cœur fut en défaillance lorsqu'ils avaient trouvé l'argent dans leur sac après avoir acheté du blé lors du premier voyage. Et là, ils sont accusés de voleurs. Et au verset 13, ils déchirèrent leurs vêtements. Alors, tout ce qui les était arrivé, tous ces événements étaient pour amener à une prise de conscience. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Le plan était d'amener les frères de Joseph à une réelle repentance. Probablement, les frères ont regretté d'avoir vendu Joseph. Probablement. Probablement, ils aussi, ils étaient désolés de voir leur père souffrir autant. Mais est-ce qu'ils étaient repentants? Et Joseph sait parfaitement que ses frères sont innocents dans cette affaire. Mais se sont-ils repentis du passé? Et c'est ce que Joseph veut découvrir. Est-ce qu'ils sont repentants? Vous savez, la repentance, c'est plus que le regret. Tu peux regretter tes péchés, tu peux regretter d'avoir fait quelque chose de mal et ne pas être repentant. Parce que demain, la semaine prochaine, le mois prochain, tu vas recommencer. Il n'y a pas aucun changement. Et il est possible d'être profondément troublé par son péché sans se repentir pour autant. Parce que des fois, on regrette parce qu'on s'est fait prendre. C'est comme un voleur. Il regrette parce qu'il s'est fait pogner. On est désolé des conséquences qu'entraînent nos péchés, mais pas de nos péchés en soi. Et Joseph savait que s'il n'y avait pas de repentance, il ne pouvait pas avoir de réconciliation. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de chapitre 45 dans Genèse. Vous allez voir, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais s'il n'y a pas de vraie repentance, chapitre 45 n'existe pas. Et pour qu'il y ait vraiment réconciliation, il fallait que Joseph voie des signes d'une réelle repentance. Il fallait aborder, il fallait adresser le problème du passé. Et pourtant, les frères semblent être contrits, semblent être accablés, semblent manifester du regret, mais Joseph ne pouvait pas conclure que c'était vraiment des signes de repentance. Il y avait un problème, les frères commencent à comprendre le problème, la source du problème. Dieu avait commencé son travail. La conscience amène les frères à considérer la source du problème. Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Nous sommes des gens de bien, nous sommes venus en Égypte, comme beaucoup d'autres, chercher du blé, de la nourriture. Pourquoi cela nous arrive? Pourquoi? Et c'est exactement ce que Dieu fait dans nos vies. Parfois, il utilise des circonstances, la famine, la maladie, la mortalité, pour nous pousser à une prise de conscience de nos péchés. À examiner au moins, à faire un examen de conscience et à réaliser que la voie du péché mène à la mort. C'est intéressant parce que David, dans le psaume 32, lorsque il décrit l'état dans lequel il se trouvait après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, il dit ceci dans le verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais au-dedans de moi. » Sa conscience n'était pas en paix. Et Dieu travaille. Il travaille constamment. Dieu est à l'œuvre. Il te presse. Il te pousse à réaliser ton péché, afin que tu sois repentant et que tu tournes tes yeux vers lui pour être sauvé. Et c'est le premier signe qui est une réelle prise de conscience. Donc le premier signe d'une vraie repentance, c'est une réelle prise de conscience de notre péché. Et cette prise de conscience doit nous pousser à une réelle confession. C'est bien, tu es conscient du péché, mais il faut le confesser. Et devant un tel constat, on voit que les frères décident de rebrousser chemin. Et Judas se rendit avec ses frères à la maison de Joseph. Et là, il se prosterne devant lui. Verset 14. Alors Joseph les réprimanda. Pourquoi vous avez agi ainsi? Et là, Judas confesse pour le groupe et reconnaît l'origine de ce malheur. Il attribue tous ses problèmes à l'action directe de Dieu, comme une punition, comme de la part de Dieu pour leurs actions passées. Alors, il comprend bien que Dieu est à l'œuvre, Dieu est actif. Ce n'est pas Joseph, c'est la main de Dieu qui le presse, qui les pousse. Dans cette situation, il dit au verset 16, « Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » C'est Dieu qui nous presse. Et ils confessent leurs péchés, leurs fautes ont été mises en lumière. C'est quoi? La jalousie, l'amour de l'argent, l'insensibilité devant la souffrance de leur père, la cruauté, la dissimulation. Et là, ils n'ont plus d'excuses. Ils ont admis leur culpabilité. Et lorsque Judas prend la parole au nom de leur frère, lorsqu'il dit « Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs », ce n'est pas pour le vol de la coupe. Ce n'est pas pour le vol de la coupe. C'est pour le péché il y a 20 ans. Des péchés non confessés. Ils avaient vendu leur frère Joseph, trahi la confiance de leur père. Ils ont cultivé pendant 20 ans ce mensonge. Et cette confession de Judas se rapporte vraiment à la vente de son frère Joseph. Ils sont maintenant des pécheurs convaincus. Et là, ils se soumettent à Joseph. Et Judas dit alors, nous sommes, toujours dans le verset 16, il dit, nous sommes les serviteurs de mon Seigneur. Wow! Ils se soumettent. Ils acceptent pleinement la sentence. Ils ne cherchent pas à se justifier. Ils sont coupables. Il parle. S'il parle, c'est pour confesser. Que dirons-nous, mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Et comment nous justifierons-nous? Ils reconnaissent leur tort, ils reconnaissent leur faute et confessent. La vraie repentance exige une confession. Et une fois qu'on a reconnu nos péchés et qu'on les a confessés, il faut s'en détourner, il faut les abandonner pour y revertir l'homme nouveau. Et c'est le troisième signe d'une vraie repentance. Il faut qu'il y ait un réel changement. Et au verset 17, on voit que Joseph, qui rejette la proposition de Judas, parce que Judas a dit, ben écoute, c'est vrai, la coupe a été trouvée, Benjamin est fautif. Il n'a pas dit ça comme ça, mais je traduis un petit peu. Mais je vais rester à sa place. Il puisse retourner. Joseph, il dit, non. Je ne risque pas d'agir de la sorte. L'homme sur qui a été trouvé la coupe sera mon esclave. Autrement dit, Benjamin devient mon esclave. Vous, ben, retournez chez votre père. Allez tranquillement. Il dit, retournez en paix. Oh, mais écoute, comment je peux retourner en paix vers mon père si je sais que sa mort
s'ensuit.
Mais on voit que d'une manière très humble, Judas demande à Joseph de lui donner l'opportunité de raconter toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Il repasse les événements en rapportant toutes les paroles de son père. Il explique que ne pas revenir avec Benjamin va briser le cœur de son père. Et cette tristesse est un point, en tout cas, insurmontable qui va entraîner la mort de son père. Judas reconnaît qu'il ne mérite pas la faveur ni la miséricorde de Joseph. Et c'est pour cela qu'on le voit qu'il s'adresse avec des termes très respectueux envers Joseph. Et le supplie pour sa patience. Et là, il fait un plaidoyer. Il dit, « De grâce, mon Seigneur, de grâce, mon Seigneur. » Je ne sais pas le nombre de fois qu'il utilise « serviteur » dans le texte. Puis il dit, « Tu es comme Pharaon. » Et là, dans son plaidoyer, dans les versets 18 à 34, il fait ressortir essentiellement deux choses. Il fera tout ce qui est nécessaire pour ne pas briser le cœur de son père. Et deuxièmement, il a pris l'engagement envers son père qu'il sera coupable envers lui s'il ne ramène pas Benjamin. Alors, il n'y a pas d'autre choix que de supplier, que de demander grâce. Il demande la miséricorde, la compassion. Il préfère, lui, Judas, rester en Égypte, au lieu d'être libre en Canaan et être témoin de la douleur et la souffrance que va éprouver son père s'il ne ramène pas Benjamin. Et ça, mes frères et sœurs, mes amis, ça c'est la preuve réelle que les frères étaient vraiment repentants. D'accepter de prendre la place du coupable, de Benjamin. Qui était innocent. Judas est prêt à prendre la place de Benjamin et de rester en Égypte comme esclave. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit une référence à une substitution humaine dans la Bible. Et savez quoi? C'était quand même intéressant ici parce que Jésus-Christ est descendant de Judas. Et Jésus-Christ viendra, il est venu. Et il a pris notre place à la croix, comme Judas l'a fait ici pour Benjamin, ou le propose ici de faire pour Benjamin. Et c'est ici, à mon avis, la preuve ultime que leur cœur avait vraiment changé. Et c'est à partir de ce moment où on voit que Joseph était capable vraiment de révéler son identité. C'est à ce moment-là qu'il pourrait avoir une vraie réconciliation, parce qu'effectivement, leurs cœurs ont changé. Il y a un réel changement. Jusqu'à un moment, il n'y avait pas assez d'évidence de repentance pour Joseph. Oui, ils avaient du regret. Oui, ils reconnaissaient que leurs problèmes découlaient de leur péché passé, etc. Mais la vraie repentance exige un réel changement. Et les frères de Joseph avaient changé. Et comment qu'on peut voir ça? Je vais aller rapidement. Comment qu'on peut voir ça? C'est qu'il y a 20 ans, ils ont abandonné Joseph, leur jeune frère. Et les voici maintenant qu'ils font face avec la même tentation. Ils ont le choix. Ils peuvent retourner, être libres, retourner en Égypte, pas en Égypte, mais en Canaan, et laisser leurs frères en arrière. Mais ils décident d'être solidaires. Ils décident d'être... Et non seulement d'être solidaires, ils n'ont pas abandonné Benjamin. Ils veulent rester à sa place et le rendre libre. Judas va s'offrir à la place de son frère. Ils ne sont plus les mêmes hommes. Intéressant aussi, ils ont vendu Joseph et Joseph est devenu esclave. Maintenant, il s'offre pour être esclave. Et devant l'occasion qu'ils ont de répéter leur péché, ils ont agi différemment. Et c'est ça la preuve d'un vrai changement. Devant la tentation, devant l'opportunité de faire le même acte, ils ont agi différemment. Il y a ici un réel changement de cœur. Non seulement ils n'ont pas voulu abandonner Benjamin, mais on voit que Judas s'offre à sa place. Eux qui étaient jaloux avant. Et on se rappelle, à la fin du verset 43, Joseph avait donné 5 fois plus de bouffe à Benjamin. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils auraient pu dire, « Eh ben oui, regarde. » Aucun signe de jalousie. Ils avaient abandonné Joseph et là, ils ont l'occasion de reproduire la même chose avec Benjamin. On voit leur cœur ont changé. Eux qui avaient vendu Joseph pour 20 pièces d'argent sont prêts maintenant à souffrir eux-mêmes pour Benjamin. Eux qui avaient menti à leur père, maintenant plaident en faveur du père. Eux qui n'avaient aucune considération pour leur père et qui étaient prêts à briser son cœur, maintenant souffrent. Judas souffre, les frères souffrent à l'idée juste de revenir sans Benjamin. Ils sont maintenant sensibles à la souffrance de leur père. Et voyez-vous, la vraie repentance produit un réel changement, produit des fruits clairs, visibles. Et Dieu avait changé leur cœur. Ils sont maintenant des hommes différents. Je veux juste que vous rappelez qu'il y a des exemples, des hommes qui ont produit des fruits dignes de repentance. On peut penser à Zachée, par exemple, dans Luc 19. Zachée a entendu parler de l'Évangile. Il ne s'est pas juste contenté de regretter d'avoir floué une couple de personnes. La Bible nous dit que dans Luc 19, que voici Seigneur, il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelque chose, de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Ça, c'est un signe d'une vraie repentance. Et ici, il y a eu restitution. David ne s'est pas contenté de dire « j'ai péché », mais il désire, à la fin du psaume 51, louer Dieu publiquement. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » Il continue « ma bouche publiera tes louanges. » Il faut qu'il y ait un changement, un vrai changement. S'il n'y a pas de vrai changement, il n'y a pas de vraie compréhension de l'offense. Il n'y a pas de vraie compréhension du péché. Et s'il n'y a pas de vraie compréhension du péché, comment peut-on être attristé pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons? Et si on n'est pas attristé pour les bonnes raisons, il n'y a pas de réelle repentance. Les frères ont été attristés, ont été poussés, pressés de toutes parts. Et ils ont compris, ils ont confessé. Et leur cœur, Dieu a changé leur cœur. Frères, malheureusement, dans nos églises, sont remplis de gens comme Mickey Cohen. Ils veulent devenir chrétiens sans qu'il n'y ait aucun changement dans leur vie. Et ça, ce n'est pas l'évangile. C'est un évangile cheap. Et l'histoire de Joseph avec ses relations avec ses frères souligne un principe fondamental, un principe important. Il ne peut pas avoir de réconciliation sincère avec Dieu. Et ça, c'est la même chose pour nos relations les uns avec les autres. S'il n'y a pas de réel repentance. Et cette réconciliation n'arriverait pas tant aussi longtemps que les frères ne feraient pas l'expérience de la repentance. Et Dieu, comme Joseph, désire que nous soyons réconciliés avec lui. Mais pour cela, il faut que toi et moi, nous reconnaissions que nous sommes pécheurs. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et que nous sommes destinés à l'enfer si on ne se détourne pas de nos voies. Dieu nous pousse à la repentance. Regretter ses péchés et leurs conséquences dans nos vies n'est pas assez. Cette tristesse pour le péché doit tourner en haine pour le péché. Dans 2 Corinthiens, et ce passage que Richard avait cité la semaine passée, 2 Corinthiens 7, 9, Paul dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais ce que cette tristesse vous a porté à la repentance. » Joseph a donné beaucoup de soucis à ses frères. Beaucoup de soucis pour les amener là où ils sont maintenant. Dieu fait la même chose avec nous. Dieu nous presse de tous côtés, de toutes parts. Il nous presse. Son Saint-Esprit travaille. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, à nous. Mais prends le temps de réfléchir et voir Dieu qui est bon et dans ses bontés nous pousse à la repentance.
Ne les méprise pas, les bontés de Dieu. Comme dit Paul dans Romains 2, 4, c'est que par cette bonté, Dieu nous veut nous amener à reconnaître notre péché. Dieu, dans son amour, ne veut pas que le pécheur périsse, mais il va à sa rencontre, comme un bon père, pour lui montrer l'état de son cœur et le conduire à lui. Il éveille donc sa conscience, notre conscience, qu'on puisse amener à reconnaître que son jugement doit s'appliquer sur le péché. Dieu nous presse à se voir comme lui, il nous voit. Et la repentance, vous savez, c'est pas le résultat d'efforts humains, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui agit dans nos cœurs. Ainsi, amis, frères, sœurs, si votre conscience est troublée au point d'être attristée, tu peux t'arrêter ce matin. Tu peux t'arrêter et, par la grâce de Dieu, dire, c'est assez. Je veux pas plus loin sur ce chemin qui mène à la mort. Une fois que tu réalises tes péchés, le salaire que méritent tes péchés, vient à celui qui peut tout pardonner. Et quel témoignage de la part de Marianne qui parle de ce Dieu qui est prêt constamment. Dieu est un Dieu qui est prêt à pardonner. Et pendant qu'il te pousse, parce que c'est lui qui initie même cela, par toutes sortes d'activités, d'actions, de circonstances, il te presse parce qu'il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Dieu est toujours prêt à te pardonner. Il t'aime, il veut te sauver, il veut te rendre capable de vivre une vie comme lui, une vie qui lui plaira, qui lui fera plaisir. Et pour vous, frères, qui êtes déjà réconciliés avec Dieu, qui avez fait la paix avec Dieu, ça se peut qu'il y a des moments que vos pieds glisseront, que vous pécherez. Rappelez-vous que la repentance aussi peut être retrouvée auprès de Dieu pour rétablir la communion. Et je termine avec ce verset dans Apocalypse 2, 4, 5 qui dit « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Dieu te pousse. Comme il a utilisé Joseph pour ramener ses frères à la repentance, Dieu veut t'amener à cette même repentance. Une prise de conscience, une confession réelle et un réel changement dans nos vies. Prions, s'il vous plaît.